Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Donc aujourd'hui, nous voilà donc dans une nouvelle émission de Un auteur, une nouvelle. Et on va vous parler de Sylvain Prudhomme. Alors Sylvain Prudhomme, il est né en 1979 à la Seyne-sur-Mer. C'est un écrivain français, auteur de romans et de reportages, dont plusieurs ont pour cadre l'Afrique contemporaine, où il a vécu et travaillé. Alors, en effet, Sylvain Prudhomme a passé son enfance dans différents pays d'Afrique, notamment le Cameroun, le Burundi, le Niger ou encore l'île Maurice, avant de venir étudier les lettres à Paris, puis de se diriger de 2010 à 2012, pas de se diriger, mais de diriger pendant deux ans l'Alliance franco-sénégalaise à Zikinchor, au Sénégal. Il est agrégé de lettres modernes. Alors, il est allé recueillir des contes hein, dans le nord du Bénin aussi, qu'il a publié sous le titre « Contes du pays Tamari ». Et puis, il est également l'auteur de « Les matinées d'Hercule », monologue romanesque hein, sur le thème de « L'homme qui dort » et du voyage immobile, et de « Tanganyika Project ». Il a collaboré avec la revue « Geste » et au journal Le Tigre, pour lequel il a notamment écrit deux reportages en feuilleton, donc African Queen, donc pas African Queen, hein, comme le film avec
on a bien noté.
Humphrey Bogart et Catherine Hepburn.
Absolument.
Sur les salons de coiffure du quartier Château d'Eau à Paris et La vie dans les arbres sur les habitants isolés des forêts de l'Ariège. Il a traduit l'essai « Décoloniser l'esprit » de l'écrivain kényan Ngugi Wa Thiong'o.
Bravo.
Je ne sais pas si je prononce bien. Hein.
Voilà. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait preuve d'un grand éclectisme géographique. Hein,
oui,
parce que... parle de l'Afrique, mais on passe par l'Ariège, par le quartier du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement à Paris, qu'on appelle le New York parisien. Je ne sais pas si vous savez, Samirey. C'est un quartier très cosmopolite, Château d'Eau, mm-hmm. où dans la rue, on te démarche pour aller dans des salons de coiffure, te faire des tresses africaines. C'est bourré de salons de coiffure. C'est pour ça qu'il a écrit apparemment un livre sur les salons de coiffure de Château d'Eau.
Et puis, donc, Sylvain Prudhomme, il a reçu le prix Louis Guillou en 2012 pour son roman « Là, avait dit Bailly », relatant l'histoire d'un fermier algérien à la veille de l'indépendance. Dans son roman « Les Grands », ça a été désigné « Révélation française de l'année 2014 » par la rédaction du magazine « Lire ». Et donc paru en 2016, le roman « Légende » a été finaliste du Grand Prix de l'Académie française. Ce roman a également reçu le prix François Billédou de la Société civile des auteurs multimédia et le prix Révélation de la Société des gens de lettres.
Oui, alors Mireille, j'ai vu aussi qu'il avait obtenu le prix Fémina pour son roman Par les routes, paru en 2019, qui est le récit d'un autostoppeur qui fuit au hasard sur les routes de France. L'autostoppeur, dit-il, est la métaphore de celui qui s'abandonne à ce qui vient.
Bien.
Pas mal.
Pas mal, pas mal. Des fois, il y a des phrases qu'on aurait bien aimé écrire, mais bon. Alors là, on va vous proposer d'écouter différents textes qui sont tous extraits du recueil de nouvelles intitulé « Les orages » qui est paru en 2021. Et donc, tout d'abord, vous allez entendre « La tombe » qui est lue par l'auteur en personne.
La dalle est toute simple. Un rectangle de pierre blanche posé à même le sol, à l'opposé de la pompe et du clinquant des caveaux voisins. Elle porte son nom. Une tombe humble, discrète, tout à fait comme il la choisirait si on lui demandait son avis. Il en serait presque ravi. Mais il y a la date dessus. Pas seulement celle de sa naissance, celle de sa mort aussi. 1975-2055. On est le 4 juin 2015, le jour de ses 40 ans. Qu'est-ce qui lui a pris, justement ce matin-là, de couper par le Père Lachaise pour descendre à la librairie ? D'emprunter justement cette allée-là, qu'il ne prend jamais, trop ensoleillée d'habitude, les tombes trop marbrées, trop neuves, trop fleuries. Il se penche pour regarder la dalle de plus près. Le nom et la date sont creusés délicatement dans la pierre, une saignée fine, élégante. Qui a pu lui jouer ce mauvais tour ? Il fait le compte. 2055, cela veut dire dans 40 ans. Ainsi pense-t-il, je serai pile à mi-chemin, je me trouverai en ce moment même à l'exact milieu de ma vie. Il va voir la police. Ne trouve pas grand-chose à répondre au commissaire qui l'interroge sur d'éventuelles menaces qu'il aurait reçues. Par-dessus tout, c'est le délai qui l'étonne. 40 ans pour un règlement de compte, ça fait long. Pendant 2 semaines, il attend le coup de fil par lequel le mauvais plaisant se dénoncera. Il sonde ses artères, ses veines, la pompe de son cœur et les terminaisons nerveuses aux extrémités de son corps, en songeant que peut-être c'est vrai. Tout cela, dans 40 ans exactement, cessera de répondre, s'éteindra, mourra, et nul ne pourra rien y faire. Et puis, il s'aperçoit qu'il vient de passer 2 semaines à ne rien faire. 2 semaines de perdu. Ce sont très exactement les mots qui lui viennent. Et à l'instant où cette pensée le traverse, il frémit. Songe que peut-être désormais il aura toujours cette angoisse, n'avoir pas tiré le meilleur de chaque heure vécue. Il se jure que non. Que cette découverte ne changera rien. Que ni A, la femme qui partage sa vie, ni ses enfants, ni aucun de ses amis ne devineront jamais la découverte qu'il a faite. La première année, il s'applique consciencieusement à ne rien modifier de ses habitudes. Il continue de repousser ses projets les plus chers au lendemain, refuse de céder à la bougeotte qui le gagne maintenant au travail, à l'impatience qui lui rend insuffisamment exaltant les dimanches en famille. La deuxième année, A est prise d'une violente envie de Japon. Elle lui propose d'y partir en vacances sans tarder. Il refuse. Ils ne sont jamais allés si loin, ne font de toute façon qu'un voyage par an, la Camargue ou les Côtes d'Armor, en alternance. Quelle mouche pique soudain A ? Est-ce qu'elle a deviné quelque chose ? Ils partent dans les Côtes d'Armor, bouffent de la routine comme jamais, lecture et sudoku le matin, plage l'après-midi, sudoku et lecture le soir. La troisième année, il s'avoue l'évidence, que tout est changé maintenant et le sera à jamais. Il ne va plus se promener sans y penser, simplement parce que ses jambes le portent vers la forêt ou vers la mer. Il ne joue plus avec ses enfants pour le simple plaisir du jeu avec eux. Il ne fait plus l'amour avec A simplement parce que tous deux en ont envie. Il fait tout cela poussé désormais par une voix qui lui répète « Profite, ne sais-tu pas que tout sera bientôt fini ?» Il n'est pas homme à se mentir longtemps. La quatrième année, il réunit ses proches, leur avoue tout, en homme qui abat ses cartes. A l'embrasse, lui dit qu'elle le retrouve. Y, son associé, allonge le visage, chamboulé et empathique. Il dit « Merde !» en lui tapant sur l'épaule. « Plus que 40 ans, merde !»« 36 !» corrige leur ami G, qui voit le bon côté des choses et le verre à moitié plein. « 36 ans à vivre, avec la certitude de ne pas casser ma pipe avant, je signe demain !» La cinquième année, G tombe malade et meurt. Avec Y et les autres, ils marchent tous ensemble de l'église au petit cimetière de village, où reposent tous les aïeux de G. De la promenade entre les tombes, il reçoit un choc. En lui se réveille furieuse l'urgence qu'il attachait pendant 4 ans de museler. La sixième année, il est infidèle. À la femme qu'il retrouve désormais chaque après-midi, au lieu d'aller à la librairie, il confie ce calcul que s'ils font l'amour tous les jours, et cela jusqu'à leur mort, ou en tout cas jusqu'à la sienne, dans 34 ans, ils l'auront fait approximativement 12 410 fois, ce qui lui semble un beau total. Insuffisant, évidemment, au regard de l'infini des possibles, mais tout de même, pas si négligeable. La septième année, il se lasse d'être infidèle et revoit ses ambitions à la baisse. 2 000 ou 3 000 fois encore d'ici la fin de sa vie. Est-ce que ce ne sera pas déjà bien assez? Est-ce qu'il ne commence pas à savoir plutôt bien de quoi il retourne depuis le temps? La 8e année, il voyage. Un pays tous les 15 jours, il a décidé. Et dans l'année, en effet, il envoie 24. S'émerveille devant le lac Albert, brave le fleuve Casamance, manque finir dans la gueule d'un tigre du Bengale. La 9e année, il déprime. S'auto-qualifie de pauvre type, d'esclave du quantitatif, de petit comptable sinistre de sa propre vie. La 10e année, il découvre dans un livre sur le bonheur des plantes la notion d'intensif. C'est une révélation. Jusque-là, il n'a cherché que du côté du nombre, manquant l'essentiel. La 11e année, il la passe à traquer partout l'intensif, à se demander à quel endroit de la vie peut bien sommeiller le maximum d'intensif. Il s'occupe intensément de ses enfants, aime intensément A, boit intensément des bières avec Y le soir aux terrasses des cafés. La 12e année, il lit cette phrase d'un écrivain japonais qui a la parole rare, mais avisée. Écrire, c'est descendre au second sous-sol. Il y voit la promesse d'une intensité maximale. La 13e année, il se met au travail, accumule des notes, remplit des carnets, esquisse les plans du livre à venir, le rêve oignon, puits de mine, cratère de volcan. La 14e année, il s'élance, tâtonne, goûte l'exaltation de l'avancée à l'aveugle, le bonheur chaque soir d'avoir accouché de pages imprévues. La 15e année, il ralentit, vacille, sent que le chemin se dérobe. La 16e année, il entre dans le dur, tente de reprendre espoir en relisant la phrase de Claude Simon qu'il a toujours trouvée si belle. Aussi ne peut-il y avoir d'autre terme que l'épuisement du voyageur, explorant ce paysage inépuisable. Oui, mais si l'épuisement vient avant d'avoir rien rencontré? La 17e année, il jette l'éponge, déprime. La 18e année, il convoque Y et lui fait cette déclaration solennelle que, contrairement à ce qu'il a cru, il n'est pas écrivain, mais quelque chose d'autre qui n'est pas moins précieux, qu'il est peut-être même plus, car désintéressé, gratuit. Nous sommes des lecteurs, Y. Au fond, toute notre vie, nous aurons fait cette chose magnifique, lire les autres, leur prêter notre souffle, notre intelligence, notre imagination. La 32e année, il est atteint d'une grave pneumonie, n'en réchappe que de justesse. Affaibli, alité, il a pour la première fois cette pensée que 8 ans encore à vivre, c'est beaucoup, qu'il s'en sent à peine capable. À compter de ce jour, les choses s'inversent. Il cesse de dénombrer les années écoulées, chiffre désormais celles qui lui restent à vivre. La 7e année avant la fin, il pense « Ainsi donc, dans 7 ans, je mourrai ». Et une rapide multiplication lui permet d'arriver au total de 2556 journées à vivre encore. Chiffre qui lui paraît à la fois maigre et inespérément élevé au vu des forces qui lui restent. Et cependant, le temps file et la fin de l'année vient. Et déjà, ne lui reste plus que 2191 jours à voir s'écouler. La 6e année avant la fin, il reprend des forces, mesure sa chance. 6 années à vivre. La prédiction ne lui est plus une menace, elle devient talisman, sauf-conduit. Pendant 6 ans, il peut tout oser. La 4e année avant la fin, il remonte le Rhône à la nage, rallie Genève en bravant le courant et les réacteurs nucléaires de Tricastin et Saint-Alban. S'attire une notoriété certaine dans le petit monde du sport septuagénaire. La 3e année avant la fin, Y meurt, suivi de A, avec qui il a renoué sur le tard. Il voudrait l'accompagner dans la tombe, trouve cruel de ne pouvoir. Maudit le destin qui l'en empêche. L'avant-dernière année, il devient contemplatif, prend l'habitude de n'aller plus qu'à pied, de s'asseoir longtemps devant les choses et de les regarder comme pour leur dire adieu. Malgré ses 78 ans, son corps est vigoureux, il se sent jeune. La dernière année, il refuse de croire que la mort l'emportera bientôt, il se met à douter. Et s'il s'était trompé 40 ans plus tôt? Il retourne au Père-Lachaise, emprunte l'allée aux tombes marbrées et fleuries, cherche en vain la dalle. Non, pense-t-il. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pu vivre ma vie entière sur un malentendu. Et sentant la panique le gagner, Il court de plus en plus vite d'une tombe à l'autre. Et les gardiens se demandent qui peut bien être ce vieil homme de 80 ans qui galope à perdre souffle parmi les dalles de marbre et les caveaux moussus. C'est très simple, très doux. Quelque chose dans sa poitrine tressaille. Il a le temps de repenser à A et à Y, de songer qu'il n'a pas été, somme toute, trop malheureux. Ses enfants ne l'ont pas revu depuis longtemps, mais savent son goût des choses humbles. Ils lui choisissent une dalle blanche toute simple, trouvent un emplacement un peu dérobé, dans une allée qu'il aurait sans doute jugée, pense-t-il, un peu trop clinquante et fleurie. Mais les morts se bousculent maintenant et on fait ce qu'on peut. On le met en terre. On grave simplement son nom sur la pierre, suivi de ses dates de naissance et de mort. Et tout est bien. T'es mangé dans...
Toujours un peu troublant hein, dans l'esprit des nouvelles, justement. C'est toujours un petit trouble. Donc cette nouvelle, elle fait 11 pages. Et on se disait à l'instant qu'il réussissait à condenser une vie un peu en 11 pages, ce qui est quand même
pas mal. Hein.
Tour de force.
Un bel exercice. Donc, alors depuis 2014, Sylvain Prudhomme développe aussi différentes formes de lecture musicale avec des compagnons de route comme le joueur de oud Faisal Sali, la violoncelliste Maëva Lebert, le photographe Lionel Roux ou encore les musiciens du Super Mama Jumbo Malan.
Quel nom ?
Voilà, alors Malan Mané et Jong Mota. Il a créé en 2016 aussi avec la chorégraphe Raphaël Delaunay dans le cadre du festival Concordance, le duo It's a Match. Tu voulais ajouter...
Oui, c'est un groupe de Guinée-Bissau, d'où ce nom, hein. Un peu compliqué.
Alors, je vous propose d'écouter maintenant deux nouvelles. Peut-être on va les mettre à la suite. Donc, il y en a une qui s'appelle Fellini, qui est lue par Dominique Belzo, qui est un nouveau...
lecteur tout frais.
Donneur de voix.
Tout frais, recruté.
Voilà, qui s'en sort très bien. Et ensuite, on vous entendrez une autre nouvelle qui s'appelle La Nuit, qui est lue donc par, qui sera lue par Marie-Laure. Alors tout de suite, nous allons écouter Fellini.
Il s'est assis tard devant un film. Le film est célèbre. On lui a mille fois dit de le regarder. C'est presque fou qu'il ne l'ait encore jamais vu. Un film qui raconte l'histoire d'un homme en train de faire un film. L'homme est perdu, ne sait plus ce qu'il veut, ne veut plus grand-chose. Plus il avance et moins il sait à quoi ressemblera son film. Le jour du tournage approche et l'angoisse en lui monte, invisible au dehors, toute puissante au dedans, envahissant chaque recoin de son être, l'empêchant de plus rien désirer, de plus aimer personne. À aucun moment l'homme n'explose, c'est plutôt comme une combustion lente, tout entière enfermée. Une immense fatigue qui le submerge et le consume de l'intérieur. Un ensevelissement dans les plis d'une lassitude devenue universelle, absolue. Lassitude de lui-même, de sa femme et de toutes les femmes, de tous les hommes, de tous les films, de toutes les idées, de tous les mots. Il conserve son élégance, continue au dehors de porter beau, mais au dedans, il est mort. À un moment, une amie de sa femme, exaspérée, l'inclut dans une famille d'hommes qu'elle décrit de ces trois adjectifs qu'elle prononce très vite, presque enchaînés, d'une traite, comme s'il s'agissait d'une famille bien connue, souvent décrite en ces termes, qui lui viennent machinalement, sans même qu'elle ait besoin de les chercher ni de faire le moindre effort pour les trouver. Les hommes faibles, abouliques, pas clairs. L'homme, assis devant l'écran, se redresse, enfonce la commande pour revenir quelques secondes en arrière, revisionne la scène en s'efforçant d'entendre les termes italiens exacts utilisés par l'ami de la femme, « uomini, deboli, abulici, senza chiarezza ». C'est bien ça, « abulici ».« Abulic ». Il n'a pas entendu ce mot plus de deux ou trois fois dans sa vie. Sans volonté, sans désir. Ça ne sonne pas très bien, mais c'est incroyablement efficace. « Senza chiarezza », sans clarté. Les types pas clairs, les types flous. Il réfléchit à cette vérité énoncée comme une évidence, que les hommes dissolus ne sont pas du tout ceux qui ont le plus de force de vie. les plus désirants, les plus vivants, mais au contraire les plus faibles, les plus incapables de choisir, les plus dépourvus de volonté comme de désir. Ces mots sont prononcés de bon matin, dans des circonstances qui les rendent passablement justifiées. On ne peut le nier, en réaction à une énième irrésolution de l'homme qui ne sait plus ce qu'il veut, irrésolution qui vaut à tout le monde de subir une situation vaudevillesque. La femme est celle qu'il faut bien appeler la maîtresse de l'homme, assise nez à nez, à quelques tables l'une de l'autre, venue en même temps le retrouver jusque-là, dans une autre ville, le même matin, à la terrasse du même café. On se demande comment l'homme qui ne sait plus ce qu'il veut a pu en arriver à pareil désastre. Si c'est par faiblesse, par négligence, par désir de s'autodétruire, enfin une bonne fois pour toutes. Ou encore, c'est l'hypothèse à laquelle se raccroche l'homme assis devant le film, la préférant à toutes les autres pour ce qu'elle permet de conserver de dignité relative aux malheureux, par une sorte d'acte manqué, de sursaut libérateur, un inconscient besoin d'avouer enfin la tromperie, en se plaçant délibérément au pied du mur et en y plaçant sa femme avec lui. Forcez tous deux à présent d'affronter le problème et donc de se parler et donc de se retrouver, fût-ce dans la dispute. Mais même placé dans cette situation, l'homme qui ne sait plus ce qu'il veut continue de s'embourber. Il nie, affirme que la présence de sa maîtresse est purement fortuite, qu'il la découvre lui-même à l'instant, que d'ailleurs il n'a plus rien depuis longtemps à voir avec cette personne, qu'il se sent même offensé qu'on ose l'associer à elle. Il n'y a qu'à voir sa tenue, comment lui faire l'affront de lui imaginer pareille liaison. Évidemment, ni sa femme, ni l'ami de sa femme, assise avec eux, ne le croient. Évidemment, il a l'air pitoyable, avec son mensonge désespéré, désespérément grossier. L'homme qui ne sait plus ce qu'il veut, à cet instant précis, assis avec sa femme et l'ami de sa femme, à trois tables de la femme avec laquelle il trompe effectivement la première, même s'il s'évertue à continuer de le nier sans convaincre personne, cet homme tombe très bas. On a mal pour lui. On ne peut s'empêcher de le trouver misérable et de s'en vouloir de le trouver tel, car chacun de nous le sait. Jusqu'où ne tombons-nous pas dans ces moments? Il n'y a rien d'autre à faire que se prendre la tête entre les mains pour ne plus voir ça. Boucher ses oreilles pour ne plus assister à cette noyade en eau toujours plus profonde. L'homme assis devant le film est accablé. C'est peut-être une scène drôle, peut-être une scène pathétique. Elle commence sur une musique de cirque avec l'entrée joyeuse de la maîtresse, se poursuit plus prudemment sur des notes qui semblent celles d'un orgue de barbarie fatigué. Manivelle actionnée au ralenti, pendant que l'homme, la femme et l'ami de la femme échangent des mots aiguisés comme des couteaux. « Épargne-moi, moi, la honte de t'entendre toujours mentir, » lui demande fermement sa femme. « La vergogna di sentirti sempre giurarmi il falso. » La honte de t'entendre toujours mesurer le faux, dit l'italien. C'est plus précis qu'en français, plus aigu. L'homme qui essaie de faire un film sait moins que jamais à cet instant ce qu'il veut. Il ne trouve rien d'autre à faire que mettre des lunettes pour se cacher les yeux, comme si les morceaux de verre fumé avaient la moindre chance de lui offrir un refuge. Mais les lunettes ne le protègent pas. Au contraire, on le regarde plus avidement encore. On est plus gêné par son regard à lui. Ce n'est plus un visage d'où parle le brillant des pupilles braquées vers nous, douées de leur vie propre, capables de nous fixer en retour. C'est une pure surface, un visage nu dont on peut à présent détailler chaque infime événement, chaque tressaillement de mâchoire, chaque haussement de sourcils. On sent l'homme acculé, foutu à notre merci. Pauvre type, pense l'homme assis devant l'écran, pauvre couillon que nous sommes tous. Le film se poursuit. C'est un film désespéré qui pourtant déborde de vie. Un film qui raconte l'histoire d'un homme à bout de force et qui pourtant la raconte avec souffle, avec folie. Un film d'une tristesse infinie qui pourtant vous éblouit de féerie. Arrive une scène où la femme de l'homme qui ne sait plus ce qu'il veut découvre les premières bribes du futur film. Évidemment, c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme en train de faire un film. Un homme incapable de savoir à quoi son propre film ressemblera. C'est l'histoire d'un type perdu dans le grand marécage de la vie, faible, incapable d'être fidèle à sa femme, incapable d'aimer la femme avec laquelle il trompe sa femme. Évidemment, c'est son histoire à lui, l'homme qui fait le film. La femme reconnaît leur vie, reconnaît la maîtresse dans le rôle de la maîtresse, se reconnaît elle dans le rôle de la femme trompée. Tout est déplacé, recombiné, modifié, et pourtant tout est là. Ce n'est pas leur vie et c'est leur vie. La femme regarde quelques scènes du futur film, puis elle quitte la salle en disant à l'homme ces mots très simples, très calmes. « Caresse-toi, Guido. Fais-toi passer pour quelqu'un de merveilleux. Quelle leçon veux-tu donner, toi, qui n'as jamais dit le vrai à celle qui a vieilli à côté de toi ?» À la fin, l'homme se sauve de justesse. Il renonce à son film. Il fait vœu de silence, jure de préférer désormais le silence au mensonge. Une fanfare débarque et se met à jouer. Les personnages s'assemblent en cortège. Le défilé démarre au son flamboyant des cuivres. Et tout est pardonné. Et una festa la vita. C'est beau, mais c'est faux. L'homme n'a pas renoncé. Puisque le film est là, puisque l'homme assis devant l'écran le voit, puisque pendant 2 heures il vient de regarder l'homme faible, aboulique et confus se noyer dans sa faiblesse, son aboulie et sa confusion. Ce n'est pas vrai que le film n'existe pas, le film existe, et ce n'est pas vrai que le film est un mensonge, puisque l'homme assis devant l'écran vient de le voir pour de vrai, puisque le film est beau. Il éteint le téléviseur, se lève, attrape un verre, le passe machinalement sous le robinet pour le remplir d'eau, sort le boire sur le pas de la porte, dans l'air frais de la nuit. Il est minuit passé déjà. Le petit quartier pavillonnaire est tout entier endormi. D'autres hommes et d'autres femmes veillent peut-être encore dans les maisons voisines, regardent peut-être d'autres films qui montrent d'autres êtres faibles, abouliques, confus. Mais c'est derrière des murs épais, des volets roulants abaissés, et il est impossible d'en rien savoir. C'est le milieu de l'été. Il fait bon. Les rues bitumées brillent mollement sous la lune. Les trottoirs sont déserts. Les voitures garées sur le bas-côté ont l'air de gros chevaux attachés un peu au hasard dans la côte, le long du talus, près de l'herbe qu'ils ont tout loisir de brouter jusqu'au matin. Les plantes grasses au pied du mur luisent. Leurs feuilles sont bleues et charnues. Elles n'ont pas l'air naturelles du tout. Le lendemain, l'homme se lève et se remet sans attendre au roman qu'il essaie d'écrire. Son métier est d'écrire des romans. Il ne sait jamais très bien à quoi il veut que son roman ressemble. Il ne sait jamais très bien non plus ce qu'il veut dire ou taire de sa vie. Comme tous les jours, il se met à mêler le vécu, le rêvé, le fantasme, l'absolument imaginaire qui paraît vrai et l'absolument vrai qui paraît imaginaire. Où veut-il en venir? Il est bien le dernier à le savoir. C'est encore et toujours le même travail de taupe. Encore et toujours le même forage de galeries à l'aveugle, la même percée de tunnels et de cheminées qui mèneront, on verra bien où. Les mêmes jeux de choses trappes, de faux-semblants, de géminations, de masques, les mêmes éternels arrangements avec le même sac de secrets inavouables. Seulement maintenant, la voix de la femme est là. Il l'entend lui souffler doucement les mots de la veille. « Caresse-toi, Guido, c'est accusateur, c'est ironique. » Mais il ne peut s'empêcher d'y entendre aussi quelque chose de tendre, de bienveillant, comme un encouragement à continuer. « Caresse-toi, Guido. » La femme l'a dit, il faut le faire. La femme, pour ce qu'il a pu en juger dans le film, c'est assez exactement ce qu'elle dit.
Voilà. Bon, donc ce que je vous, ce qu'on peut vous dire encore. Alors, Sylvain Prudhomme, il vit à Arles. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues et il collabore chaque mois depuis 2015 à la chronique écriture du quotidien Libération. Il est également le lauréat 2019 du prix Femina, dont on a parlé tout à l'heure, et aussi du prix Landerneau des lecteurs pour son roman Par les routes. Donc, tu voulais ajouter quelque chose de...
Eh bien, la nouvelle qui va suivre, là, donc l'appartement que j'ai lu, fait aussi 11 pages. Tout à l'heure, on parlait de la nouvelle La Tombe, qui faisait 11 pages, qui condensait toute une vie. Et là, en fait, bah, ça condense quelques minutes de vie. Donc, ça montre l'ampleur des possibilités de la nouvelle, malgré le côté bref.
Donc, bah, je vous propose de l'écouter, donc, cette nouvelle qui s'appelle L'appartement et qui est lue par Philippe en personne.
La vente a lieu dans une heure et ni A ni lui n'ont le projet de la dénoncer in extremis. Il tourne la clé dans la serrure, attire un peu la porte à lui pour céder. Il sait le geste par cœur. Il l'a fait 1000 fois, 10 000 fois. Son poignet pivote, la porte cède, l'acoustique change. Il sait par cœur le brusque effet de sourdine, sitôt la porte refermée. Les sons d'un coup amorti, le monde extérieur rejeté derrière un mur d'ouate. Les bruits de l'immeuble qui continuent d'arriver à ses oreilles, mais filtrés à présent. La déflagration d'une porte claquée qui se propage par le conduit de la cheminée. Une voix d'homme en colère à l'étage du dessous. La sirène d'une voiture de police qui déboule 5 étages plus bas sur le boulevard et pour arriver jusqu'à lui doit vaincre la résistance du double vitrage. Pour la dernière fois, il est chez lui, dans l'appartement où il a vécu pendant 10 ans, où il a continué de venir séjourner de nombreuses fois les 10 années suivantes, même s'il n'habitait plus Paris. Cet appartement, qui est sans aucun doute à bien y réfléchir, le lieu où il a vécu le plus d'heures cumulées depuis sa naissance. Probablement les 38 mètres carrés de croûte terrestre, si l'on peut dire. Il se trouve au 5e étage, et il n'est pas certain que même les caves de l'immeuble soient véritablement creusées dans la terre. La vraie terre ne se trouve-t-elle pas beaucoup plus profond encore, loin en dessous de la rue, en deçà du métro et des égouts? En tout cas, les 38 mètres carrés de plancher qu'il connaît le mieux. Sans conteste, le morceau de monde qu'au cours de sa vie il a le plus arpenté, reconnu, pratiqué. Il regarde sa montre, il lui reste moins de 20 minutes. Le rendez-vous est confirmé, les papiers en ordre. Dans une heure, ils seront tous ensemble devant les actes à signer. La vente sera conclue, il remettra définitivement les 3 jeux de clés aux acheteurs. Un couple à peine plus âgé, K et lui, l'été il y a 20 ans. Un couple qui accourra probablement sitôt les trousseaux récupérés et dans moins de 2 heures se tiendra là, entre ses murs, au milieu de cet appartement devenu le sien. Il réunira dès ce soir des amis dans le salon, devant ses fenêtres. Il marche jusqu'à l'étroite cuisine, dépose ses clés sur le plan de travail blanc. Les lames de métal font sur le panneau mélaminé exactement le bruit qu'il a anticipé. On pourrait en dire autant de chaque surface alentour, de chaque centimètre carré de matière avec lequel il déciderait d'entrer en contact autour de lui. Il sait quelles lattes de parquet grincent, quelles autres, au contraire, sont fermes et vous soutiennent sans broncher. Il sait le bip précis que ferait l'horloge déréglée du four s'il s'avisait d'en enfoncer les touches vieillies pour la remettre à l'heure. C'est entre ces murs qu'il a passé la moitié de sa vie, entre ces murs que tout son être a encaissé le doublement de son âge depuis ses 20 ans, entre ces murs pour l'essentiel que cela s'est passé, le vieillissement de son corps et sans doute de ses pensées. Il pense à ce mot, mûrir, à sa merveilleuse faculté de charger l'âge de promesses et de bienfaits. Il a mûri, si on veut. Mûri comme un fruit. Il veut bien souscrire à cette image. Un fruit déposé là, entre ses murs. Exposé semaine après semaine, à la lumière entrée par les fenêtres. Un fruit abandonné aux salves de photons, et jour après jour défraîchi, usé, fané, ridé, ratatiné, il ne l'est pas encore tout à fait, mais c'est indéniablement dans ce sens que vont les choses. Bientôt, il faudra regarder la vérité en face. Il sera vieux. Il refait à tout hasard le tour des placards, trouve sous l'évier de vieux produits d'entretien K et lui ont oublié de jeter. Dans la chambre, il regarde les étagères qu'il a posées lui-même. Il se revoit en train de percer le mur pourri au-dedans, le bois sous la peinture depuis longtemps réduit en poussière. Il revoit les livres, rangés pendant toutes ces années, sur les rayonnages remisés la semaine dernière seulement, fourrés dans des cartons à la hâte. Des 38 mètres carrés que comptent les deux pièces, il n'est pas un recoin. K et lui n'est façonné de leurs mains, découpé, vissé, assemblé, enduit, peint. S'il regarde l'angle de ce mur, il peut se revoir avec D en train de poser la poutre qui se cache sous l'enduit et la peinture. Une poutre jaune, placée verticalement. Il se rappelle le magasin précis où il l'a acheté. S'il regarde les cloisons, il peut dire où passent les gaines électriques. C'est lui qui a creusé les saignées pour les encastrer. S'il regarde le plafond, il peut revoir A, debout sur son escabeau jusqu'à minuit, rouleau de peinture à la main, tenue de travail et visage constellé d'éclats blancs. S'il regarde le parquet à ses pieds, il peut dire pour quelles raisons très simples les lattes sont plus foncées à cet endroit qu'ailleurs. Il peut décrire l'absurde salle de bain qui se dressait là et dont il a, dès le premier jour, défoncé lui-même à la masse les parois, les faisant voler en éclats. Il pensait y passer la journée, mais en une demi-heure, tout était en miettes. C'est toujours ainsi quand on casse. Ça va très vite, c'en est vertigineux. Tout le temps qu'il faut pour construire, et comme détruire est simple. Il est debout dans le salon, la pièce qu'il a toujours préférée, la plus grande, la plus belle. Il regarde les rideaux immobiles, le ciel immobile. Dehors, c'est une belle journée d'été, plus ou moins la même que la première fois où ils sont entrés là et ont vu le soleil qui s'engouffrait à flots par les fenêtres. En 20 ans, le quartier a changé. Les boucheries, les revendeurs de portables bon marché et les taxiphones ont cédé la place à une abondance de bars presque inégalée dans la ville. Le soir, les terrasses sont prises d'assaut jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Il faut des cordons pour contenir sur le trottoir la foule des buveurs de bière. C'est devenu branché, sans tout à fait cesser d'être pauvre. Les salons de coiffure afro sont toujours là, à 50 mètres à peine sur le boulevard. Deux selfs spécialisés dans le poulet frit viennent d'ouvrir en face, à deux pas d'un vendeur de crêpes, tout neuf, lui aussi, avec enseigne lumineuse criarde et noctambule qui, le soir, tard, viennent s'en jeter une au fond du ventre. La crêpe de fin de soirée, quand tout le reste est fermé, quand il n'y a plus que ça pour se caler un minimum l'estomac, 200 grammes d'emmental fondu et de mauvais jambon, fait pour ça, littéralement tomber dans le ventre, se laisser avaler et la seconde d'après être au fond, prendre les dimensions de l'estomac, en épouser la forme exacte, le parfait aliment plomb, coupe fin jusqu'au matin, si nombreuses soient les pintes absorbées depuis l'apéro. Pour le reste, le quartier est toujours le quartier, le café du coin toujours le café du coin. Paris change, mais ce qui a le plus changé en 20 ans, ce qui, relativement à son espérance de vie propre, c'est le plus consumé, c'est incontestablement lui. Il va pisser, tant qu'à y être, l'occasion de dire au revoir à la salle de bain. Cette minuscule salle de bain qu'ils avaient voulu réduite au strict nécessaire pour rogner le moins possible sur le salon. Dernier jet sur la cuvette. Une belle cuvette. Ils avaient bien choisi. Belle cuvette et beau carreau turquoise au mur. Beau lavabo, élégant, discret, dans lequel ils se lavent machinalement les mains une dernière fois en repensant à toutes les douches qu'ils ont prises là ensemble avec A, toutes les sorties de douche où ils ont été nus tous les deux, dans cette pièce étroite, avec toujours en bruit de fond la soufflerie de l'extracteur d'air. Il le fallait pour l'humidité, mais quelle plaie! Par terre, il reste quelques rognures d'ongles, quelques cheveux, leurs cheveux, les cheveux d'amis et d'amis passés là au cours des dernières semaines, des derniers mois. Ils regardent la bonde de la douche qu'ils n'ont eu ni le temps ni l'envie de vider une dernière fois avant de partir. Les jeunes acquéreurs auront tout le loisir de s'en charger. Ils pensent à toutes les fois où, de passage dans cet appartement, où ils ne venaient plus qu'épisodiquement l'un et l'autre, la plupart du temps séparés, il a nettoyé cette bonde. À ce qu'il ressentait chaque fois qu'il désencastrait le siphon pour le vider, plonger les doigts entre les rainures en plastique pour en chasser le mieux qu'il pouvait cette matière molle, grise, gluante, mélange de cheveux, de poils, de résidus de savon et de fluides corporels divers agglutinés à la pelote. Un évident dégoût à recueillir dans sa paume la boule de fibres gélatineuses pour la glisser dans la poubelle. De la répulsion, mais aussi un rien de fascination. Un vertige à penser à tout ce qui se trouvait concentré là de leur vie. Tout ce que ces quelques grammes de matière disaient d'eux, de leurs secrets, de leur corps, de ce qu'avait fait leur corps au cours des semaines précédentes, de toutes les fois où ils avaient joui. Le vertige de savoir que c'était là, dans ses mains, les pièces à conviction les plus irréfutables pour quiconque aurait voulu savoir leurs secrets. Les fluides d'autres corps, si d'autres corps étaient venus, l'impression d'un substrat de vérité déposé là devant lui. Un concentré dont ses yeux myopes ne pouvaient rien connaître, mais qui aurait pu tout dire à qui aurait voulu savoir. Il sort de la salle de bain pour ne plus entendre cette foutue soufflerie, au moins une chose qu'il ne regrettera pas. Il regarde le parquet, les rainures entre les lattes du parquet. Il songe que ce qui est vrai de la bonde l'est de l'appartement tout entier, que les traces d'eux sont partout, déposées année après année dans chaque anfractuosité, au fond de chaque interstice. Il pense avec un sourire que la brigade scientifique, si elle débarquait là et se mettait en tête de passer l'appartement à l'aérosol, comme on voit dans les films, trouverait leurs empreintes sur chaque centimètre carré de matière. Leurs empreintes et celles de tous les corps venus là depuis 20 ans. Il se demande à quel endroit du deux pièces la densité d'empreintes est la plus grande. Sur quelle zone de parquet ils se sont le plus souvent tenus. Il revoit l'emplacement des meubles pendant les 10 premières années, l'emplacement des meubles pendant les années qui ont suivi, où l'appartement est devenu le bureau d'un journal d'amis qui venait deux fois par semaine mettre en page et boucler là leur numéro, dans une ambiance que tous ensemble avaient partagée pendant plus d'un an, avant K et lui ne s'en aillent loin de Paris. Il revoit le vieux canapé-lit qu'il s'est mis avec le temps à préférer au vrai lit, dormant plus volontiers dans le vaste espace du salon, tout volet ouvert, le matelas étalé à même le sol, la petite chaîne Hi-Fi près de lui, la musique toute proche jusque tard. Il revoit la petite table qui lui a longtemps servi de bureau et qui était là encore la semaine dernière, appuyée contre le mur. Revoit les assiettes posées dessus, les soirs où les invités n'étaient pas trop nombreux, mais le plus souvent les assiettes étaient sur les genoux, remplies sans façon de pâtes cuisinées à la hâte et de samoussa achetés à l'épicerie indienne du coin. La table poussée dans un coin, réduite au rôle de desserte, si le mot n'est pas trop guindé, de débarras à cadavres de bouteilles et à canettes converties en cendriers, en tout cas. C'était une table sans grande valeur de fabrication industrielle, dont ni A ni lui n'auraient jamais cru une seule seconde que toutes ces années après, elle serait toujours là, fidèle alliée de leur vie. Mais n'en va-t-il pas ainsi d'innombrables objets autour de nous, débarqués un matin dans notre existence, presque par hasard, sans que nous le réalisions bien, et qui au jour de notre mort sont toujours là, et sans jamais le décider, nous avons fait notre vie avec eux. La table était ces dernières années recouverte d'un tissu en batik bleu rapporté de leur vie dans un pays étranger. Il ne sait plus quel tissu l'habillait avant. Il la revoit seulement couverte à quelques occasions d'une serviette de bain propre, déplacée au milieu du salon pour autoriser une circulation plus libre alentour. Leur premier enfant allongé dessus, visage plaqué de côté contre le tissu, pipette de sérum physiologique dans le nez, un petit homme au bras sec penché sur lui, main sur son thorax pour le soulager mécaniquement des bronchiolites qu'il rapportait à intervalles réguliers de la crèche. Quelques pressions sur le thorax et le trop-plein de morve remontait miraculeusement, s'écoulait des narines comme un liquide sorti d'un tuyau de pommade dont on aurait pressé la partie inférieure. Le kiné l'essuyait du revers d'un mouchoir en papier et l'enfant à nouveau respirait. Le kiné rangeait ses pipettes et ses gants dans une valisette et il le regardait repartir vers d'autres domiciles, s'en aller expectorer la morve d'autres nourrissons malades. Il n'y a plus de table, plus de canapé-lit. L'enfant qu'on allongeait parfois sur la table a aujourd'hui 11 ans, un petit frère de 7. Il est l'heure. Il regarde une dernière fois la pièce vide, se remémore une dernière fois la silhouette d'A debout entre ses murs, dans cette lumière, devant ses fenêtres. A, qui un matin était sorti de la douche et s'était mise à s'affairer à 1000 tâches, sans prendre la peine de s'habiller, était resté nu à vivre sa vie pendant qu'il la regardait assis à son bureau. Bien sûr, il avait fini par se lever et la tirer contre lui, se déshabiller à son tour. Mais pour une fois, il avait attendu. Il l'avait laissé continuer un long moment d'abord. Il avait pris son appareil et l'avait photographié en train d'aller et venir sur le parquet où ses pieds mouillés déposaient des empreintes sombres. A avait vu l'appareil et avait souri. Elle s'était mise à poser imperceptiblement, puis de plus en plus ostensiblement, s'était un peu cambrée en riant dans le contre-jour. Des poses pour jouer devant les voilages bleus qui laissaient filtrer le soleil. Il pense à ses photos qu'il a faites. Il pense à toutes celles qu'il aurait pu prendre et n'a jamais prises. Cette fois, il s'en va. Le moment mériterait des roulements de tambour, des trémolos de violon, trois coups, comme au théâtre. Dans un mauvais film, il y aurait sans doute de la musique, la petite musique de la vie qui passe. Mais non, il n'y a rien. Tout est comme toujours. Les bruits sont les mêmes, le silence est le même. L'immobilité des choses est la même. Il foule une dernière fois le couloir de l'entrée. Il fait jouer le loquet de la serrure, entend le claquement qui libère le pen. Il est dehors, ça y est, sur le palier. Il referme doucement la porte derrière lui, donne un dernier tour de clé. Dans l'escalier, il pense au silence là-haut, à l'intérieur de l'appartement, au calme revenu entre les murs, aux particules de poussière qui doivent remuer dans la lumière, agitées par son passage. Il pense que tout là-haut, on doit encore entendre le bruit de ses pas dans l'escalier. Puis, c'est la rue et son fracas.
Voilà, donc c'était la nouvelle L'appartement, donc lu par Philippe. Alors tout à l'heure, on a eu un petit problème technique, donc on ne vous a pas passé la nouvelle intitulée La nuit. Mais ça fait rien, on vous la casera. Une autre fois dans une autre émission.
Oui, ça peut arriver à la radio. Puis ça ne nous arrive pas souvent. On va se défendre. Hein.
Donc, alors, pour rappel, comment donc toutes ces nouvelles que l'on vous a lues sont extraites comment du recueil de nouvelles Les Orages, hein, paru en 2021.
Et, Les Orages de la vie. Les orages.
Les orages, bah oui, qu'est-ce que tu me racontes?
J'ai noté Les Orages de la vie. C'est peut-être une anticipation. Il y a 12 histoires où le réel alterne avec la fiction. Parce que selon Sylvain Prudhomme, la fiction permet d'écrire avec une plus grande marge de liberté. Donc, comme on se le disait, Mireille, chaque nouvelle est en rapport avec un bouleversement dans la vie du personnage. Et chacune suggère le moment d'accalmie qui suit l'orage.
Parce que ça, voilà.
Un peu comme la vie qui ne sera donc plus la même après. Moi, j'ai beaucoup aimé lire cette nouvelle à l'appartement parce que j'ai trouvé que c'était la prise de conscience vraiment de la page qui se tourne dans l'existence. Il fait le tour là de son appart qu'il a vendu,
mais en même temps tous les détails,
voilà, les usures des matériaux, mais il se dit que peut-être lui aussi c'est un peu usé. Et je trouvais que une page, ça ressemble fort à une porte qu'on tourne finalement, que l'on referme sur une tranche de vie. Donc ce Sylvain Prudhomme, là, je trouve qu'il écrit bien. Il dit aussi, on a toujours un souvenir presque atmosphérique des moments où tout bascule. Ça, je trouve cette phrase à la fois étrange, mais intéressante. Ça veut dire qu'on se rappelle peut-être du temps qu'il fait quand on vit quelque chose d'important ou... Et puis, Sylvain Prudhomme, il cite aussi, à propos des nouvelles, hein, il fait un rapprochement avec une phrase du chanteur Leonard Cohen, qui dit que dans chaque chose, il y a une fêlure, et c'est par là qu'entre la lumière. On voit bien l'angle qu'il choisit pour écrire ses nouvelles. Ce qui fait qu'on aime toujours les nouvelles.
Voilà. Alors ça, c'est un livre que j'ai découvert en allant à la librairie à Évreux.
C'est ce que je te demandais.
En centre-ville.
Comment trouves-tu les livres, les nouvelles?
Voilà. J'aime bien traîner dans les rayons. Et puis, quand je regarde... j'ai des auteurs préférés que j'achète.
Tu lis les petits résumés.
Et puis voilà. Et après, par exemple, Sylvain Prudhomme, je ne connaissais pas du tout.
Moi non plus.
Et en feuilletant un peu, je me dis, tiens, ça a l'air bien. Et effectivement, voilà.
Ça donne envie de lire d'autres livres.
Hein. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que des fois, j'en achète aussi. Et puis, une fois lu, je me dis,
on ne fera pas l'émission.
Voilà. Mais peut-être qu'à un autre moment, c'est vrai que les lectures aussi, ça dépend beaucoup de l'instant, de l'humeur dans laquelle on est. Et des fois, il y a des choses qu'on lit qui ne nous touchent pas. Et puis, des fois, on va relire ça 6 mois, 1 an après.
Oui, c'est vrai, en fonction de...
On va trouver que c'est pas si mal que ça.
De notre âge, du vécu. Oui, c'est vrai. Et à la radio, parfois, quand tu écoutes la radio, non, tu entends parler d'un livre, ça peut aussi être une source de
découverte. Oui, alors j'avoue que j'écoute pas beaucoup la radio.
Je te dis ça parce que moi, je l'écoute et
des fois, tu m'as parlé souvent.
Parfois, on entend justement des extraits de lectures d'auteurs sur leurs propres œuvres. Comme ce que tu as passé tout à l'heure. Ça fait des sources multiples pour découvrir les nouvellistes ou les novellistes.
Oui, ça dépend de...
Les deux sont bons.
Les deux sont bons, parce que les Américains... Alors, il faut faire attention, parce que pour les Américains, un roman, une nouvelle, justement.
Alors, c'est un faux ami.
Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire attention avec les traductions américaines. C'est vrai que je passe, par exemple, souvent beaucoup d'auteurs américains, mais c'est vrai que j'aime bien, parce qu'eux, ils écrivent, il y a beaucoup d'auteurs de nouvelles.
Oui, puis ils savent bien écrire sur le quotidien, vu par la petite lorgnette, un peu.
Voilà, mais on essaie de vous offrir un panel assez large.
Je suis témoin.
Donc, la prochaine émission, on vous passera des récits de voyage.
C'est une thématique, c'est pas un auteur.
Voilà, c'est sur une thématique, comme on fait chaque...
échéance.
Chaque mois de juin, pour vous préparer à partir en vacances. Alors, c'est vrai que des fois, on a des nouvelles qui sont un petit peu... On n'aurait pas envie que ça nous arrive pendant les vacances.
Oui, j'ai des souvenirs, oui.
Mais voilà. Donc, merci d'être à notre écoute. Et puis, à très bientôt, dans la prochaine émission d'Un auteur, une nouvelle.
À bientôt.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.